Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue avec une parole choc ce soir sur la réalité de la santé de l'hôpital public. Pourra-t-il tenir en cas de seconde vague? C'est la question que nous poserons à 18h20 au professeur Michael Perromore. Il est chef du service urologie de l'hôpital Cochin à Paris et dans un livre coup de poing, il dénonce l'état de délabrement de notre système. Premier accusé, dit-il, la gratuité des soins. De la politique également au menu, que se passe-t-il à droite? L'université d'été LR devait être le moment de la mise au point, et bien c'est raté. On en débattra avec les grandes voix. Et puis entre 19h et 20h, c'est le Club des idées d'Europe Soir, votre nouveau rendez-vous pour comprendre le monde qui change, réfléchir, confronter ses idées et prendre le temps de se faire son opinion. Avec ce soir, la semaine de 4 jours en débat. Pas mal, me direz-vous. Et si c'était la solution face au chômage de masse, le débat est relancé en Europe. Vous verrez pourquoi, on en parlera avec nos invités. Mais d'abord, c'est l'heure du journal. Avec vous, Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Il y a des formes graves, et elles sont en très 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 nette augmentation. Au début de l'été, on pouvait être confiant. Maintenant, ce n'est pas la confiance, c'est l'inquiétude et la très grande inquiétude si ça ne s'arrête pas.
Les services de réanimation sous tension à Marseille. Sur les 70 lits dédiés aux patients Covid, il n'en reste plus que quelques-uns de disponibles.
Les labos qui effectuent les tests sont eux aussi débordés. Le problème, c'est que les patients présentant des symptômes ne sont pas prioritaires.
Le gouvernement planche sur un raccourcissement de la fameuse quatorzaine qui pourrait passer à 10 ou même à 5. Jours.
La sécurité, thème mis en avant par l'exécutif en cette rentrée, le ministre de l'Intérieur promet des chiffres tous les mois.
Un homme interpellé aujourd'hui dans le Haut-Rhin, il pourrait être impliqué dans les sévices infligés à plusieurs chevaux.
Jour de repos pour les coureurs du Tour de France, au programme test Covid pour tout le monde, sympa.
Et puis la Bourse de Paris a terminé ce soir en nette hausse, plus 1,79% à 5053 points.
La tendance météo avec Anissa et les bonnes nouvelles continuent puisque la journée de demain sera estivale.
Et pas que celle de demain, c'est une très belle semaine qui s'annonce pour toute la France. Alors attention, demain nous aurons encore quelques nuages légers, des petites averses et surtout des températures qui grimpent. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les hôpitaux marseillais seront-ils bientôt saturés? C'est la crainte en tout cas des autorités face à un afflux d'hospitalisations en réanimation.
Pour l'instant, la situation est sous contrôle, mais il ne faudrait pas grand-chose pour que tout bascule à nouveau.
Et on va retrouver Nathalie Chevance, la correspondante d'Europe 1 sur place. Nathalie, sur les 70 lits de réanimation dédiés au Covid sur le département des Bouches-du-Rhône, il ne reste plus que quelques places. C'est ce que vous avez pu constater vous-même aujourd'hui à l'hôpital Nord.
Oui, en une semaine, ici, le nombre de patients a doublé. Ils sont 7 actuellement intubés et il n'y a plus que 3 lits disponibles dans cette unité Covid. Des malades âgés de 50 à 85 ans qu'il faut parfois transférer dans d'autres hôpitaux pour trouver de la place. Bref, c'est le même scénario qu'au début de l'épidémie, pointe le professeur Papazian, chef de la réanimation à l'hôpital Nord.
Il y a des formes graves et elles sont en très 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 nette augmentation. Au début de l'été, on pouvait être confiant. Maintenant, ce n'est pas la confiance, c'est l'inquiétude et la très grande inquiétude si ça ne s'arrête pas et si on ne prend pas conscience, en particulier dans notre ville, qu'il y a un grand danger à ne pas se protéger et protéger les autres.
Et à l'hôpital, les lits sont réarmés. Tout le protocole de soins et de protection est de nouveau en place. Natacha, infirmière, répète les mêmes gestes et les mêmes paroles qu'au plus fort de l'épidémie.
Ben là, on revient un petit peu tout ce qui est détresse des familles. Cette notion-là de pas de visite. Donc c'est très dur pour les patients qui commencent à se réveiller et qui sont tout seuls. Après, on sait comment prendre en charge, mais on ne sait pas le nombre, on ne sait pas comment ça va se passer. On a encore plein de points d'interrogation.
Avec aussi un objectif, ne pas mobiliser tous les lits de réanimation pour les malades du Covid, afin que les opérations et les urgences classiques puissent être traitées normalement.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1, donc à Marseille.
Alors, il y a ce problème de l'augmentation des hospitalisations, mais il y a aussi tous ces patients testés positifs qui attendent patiemment chez eux pendant 14 jours, une durée qui pourrait être remise en cause.
Anne Le Gall, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1 avec nous dans ce studio. Anne, le gouvernement envisage sérieusement donc de réduire ce délai. Où en est-on ?
On attend l'avis du conseil scientifique dans les jours qui viennent, car effectivement, le gouvernement pense qu'un délai plus court serait mieux respecté, puisqu'en pratique, ce n'est pas simple effectivement de rester chez soi 2 semaines, loin de son lieu de travail, isolé de ses proches. Alors, beaucoup d'experts estiment qu'effectivement, la quatorzaine pourrait être réduite à 1 semaine, car c'est au début de la maladie, dans les 5-7 premiers jours, qu'on est le plus contagieux.
Alors, certains médecins alertent également, Anne, sur les tests. Les laboratoires, on le disait, sont actuellement débordés. Et le problème, eh bien, c'est que dans les files d'attente, il y a tout type de profil. Hein.
Oui, on trouve aussi bien des patients qui ont des symptômes que des personnes inquiètes parce qu'elles ont un proche fragile. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un test pour prendre l'avion. D'où l'appel de certains médecins pour qu'on hiérarchise toutes ces demandes de tests. Il faudrait, disent-ils, donner la priorité aux personnes qui ont le plus de risques, a priori, d'être testées positives et donc de diffuser le virus. Ces personnes, ce sont celles qui ont des symptômes, bien sûr, et aussi celles qui sont des cas contacts. Autrement dit, écoutez bien, des personnes qui ont fréquenté un cas positif pendant 15 minutes, sans masque, soit dans la même pièce, quelle que soit la distance, soit à moins d'un mètre si on est en extérieur, à la terrasse d'un restaurant, par exemple.
Merci pour ces précisions. Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Et j'ajoute qu'à 19h, on vous donnera des nouvelles de cette EHPAD de l'Aveyron, cette maison de retraite de Sévrac-le-Château, l'un des nouveaux clusters identifiés, 43 pensionnaires et 11 salariés infectés. 18h04, la suite de votre journal, Isabelle Millet, avec cette intense émotion aujourd'hui au procès des attentats de 2015.
Oui, la justice est revenue ce matin sur le déroulement de la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo. Des vidéos de l'attaque issues des caméras de vidéosurveillance ont été diffusées, souvent insoutenables, suscitant bien sûr l'émotion des parties civiles.
On y voit notamment la salle de rédaction, les corps de victimes, avec pour chacune un numéro d'identification. Plusieurs familles ont quitté la salle en pleurant.
Pour maître Cathy Richard, qui est l'une des avocates des parties civiles, malgré la douleur, il fallait pourtant diffuser ces images. Écoutez son émotion à la sortie de l'audience et de la diffusion donc de ces vidéos sur lesquelles elle a reconnu l'un de ses amis, Tignous.
J'avoue que pour moi, là, maintenant, tout de suite, l'avocat se dispute avec l'ami. Enfin, je connaissais très bien Tignous, qui était un garçon extraordinaire. Et donc, pendant un certain temps, j'ai du mal à être avocat seulement. On est saisi d'une part par la motivation qu'on sent très forte hein, de la part des frères Kouachi. On les voit déterminés, sans hésitation. On sait aussi que un bon nombre des victimes ont été lâchement assassinés, hein, de balles tirées d'arrière vers l'avant. C'est une scène d'horreur, c'est une scène de guerre hein, qui s'est passée en 1 minute 45. On les voit également à la sortie tuer ce policier qui leur dit « Chef, chef, ça va ? C'est bon, chef, c'est bon. » Et il l'assassine, il l'achève. Il va falloir mettre de l'humanité dans ce procès parce que ce qu'on vient de voir, c'est inhumain. On a vu des machines de guerre.
Un témoignage de maître Cathy Richard, l'une des avocates des parties civiles au procès Charlie Hebdo, micro Europe 1 de Chloé Triomphe. Ce procès où l'obligation permanente du port du masque, qui avait été allégée la semaine dernière, a finalement été rétablie ce matin par la cour d'assises spéciale, y compris pour les prises de parole des accusés et de leurs avocats.
Europe 1, Julien Bugier.
18h06 à suivre dans votre journal de 18h. Une interpellation dans l'enquête sur les sévices à l'encontre de chevaux.
Et puis le ministre de l'Intérieur qui déclare la guerre à l'insécurité et le Tour de France qui lui déclare la guerre au Covid.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h08, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. Ça fait des mois que des chevaux sont régulièrement mutilés un peu partout en France. Et bien pour la première fois, un homme vient aujourd'hui d'être interpellé.
Oui, il a été arrêté dans le Haut-Rhin, Guillaume Bier.
Oui, arrêté chez lui, près de la frontière allemande. C'est un homme de 50 ans qui était dans le collimateur des gendarmes depuis plusieurs jours, notamment car il correspond au portrait robot diffusé par les enquêteurs. Un portrait robot établi après l'agression dans Lyon d'un propriétaire de ranch. Lui-même blessé il y a 2 semaines par 2 hommes qui s'en étaient pris à ses poneys. D'après nos informations, ce portrait robot a fait tilt chez un gendarme qui a orienté ses collègues de la section de recherche de Dijon vers ce suspect. Ce matin, le quinquagénaire a donc été interpellé, placé en garde à vue, perquisition menée à son domicile. Sur son profil, on sait simplement qu'il n'a rien à voir avec le monde équestre ou animal et qu'il est déjà connu de la justice. Il a été condamné il y a 10 ans après avoir été arrêté en possession d'une petite quantité de drogue. Prudence pour le moment, les vérifications sont en cours. Les gendarmes cherchent des indices ou des liens avec une ou plusieurs affaires de mutilation, mais pour l'instant, ce suspect reste présumé innocent. Sachant de toute façon que les enquêteurs sont à la recherche de plusieurs auteurs vu la multitude d'attaques perpétrées d'un bout à l'autre du pays sur une large moitié nord.
Guillaume Bier du service police-justice Europe 1.
La France est malade de son insécurité, diagnostic signé Gérald Darmanin.
Le ministre de l'Intérieur qui dévoile aujourd'hui plusieurs mesures du plan qui sera présenté mercredi lors d'un séminaire gouvernemental. Le gouvernement clairement muscle son discours. Gérald Darmanin promet de détailler chaque mois les chiffres de l'insécurité. Jean-Rémy Baudeau, on se trompe ou on se croirait revenu au temps d'un certain Nicolas Sarkozy?
C'est vrai qu'il y a des similitudes entre les annonces de Gérald Darmanin et la politique menée par l'ancien président quand il était place Beauvau. Des annonces, mais aussi beaucoup de com, car tous les mois, les services statistiques du ministère de l'Intérieur publient déjà des chiffres, les homicides, les cambriolages. La nouveauté, c'est que Gérald Darmanin veut aussi publier d'autres indicateurs, le nombre d'heures en patrouille, le nombre de dérives sectaires. Mais au fond, on fait face à la même logique. Le risque de la politique du chiffre dénoncé à l'époque justement de Nicolas Sarkozy. Faire du chiffre, remplir des tableaux, des graphiques et n'avoir que peu d'effet sur la réalité du terrain, sur le ressenti des Français. Un risque qui semble réel. Marlène Schiappa promet par exemple de doubler le nombre de verbalisations pour du harcèlement de rue. Une injonction au préfet qui risque d'avoir plus d'effet sur les rapports chiffrés des policiers que sur le sentiment d'insécurité des femmes.
Alors ça c'est sur le fond, mais sur la forme, Darmanin, il fait aussi du Sarkozy ?
Eh bien un petit peu, Gérald Darmanin, très actif sur tous les fronts, sur le terrain. Quand vous suivez un tel homme politique, ça donne un peu le tournis. Et la comparaison avec Nicolas Sarkozy va jusque dans le style, sa manière de parler. Prenez, ce matin sur BFM TV, Darmanin utilise des termes comme « consommer des stupéfiants, c'est de la merde », il parle des bagnoles, de la BAC, de ceux qui emmerdent la vie de tout le monde. Alors, est-ce que c'est du franc-parler? Peut-être, mais ces expressions font grincer des dents, rappellent le langage de Nicolas Sarkozy. Et comme le dit un macroniste de premier plan, les gens attendent de nous un peu de tenue. On n'est pas populaire en parlant mal. Fin de citation.
Merci Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Et puis invité sur Europe 1 à la mi-journée, l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin a glissé quelques piques au ministre de l'Intérieur.
Sur l'insécurité, M. Darmanin est ministre de l'Intérieur, il n'est pas simplement commentateur de l'insécurité. Quant à la politique du chiffre, puisqu'il s'inspirerait de Nicolas Sarkozy, c'est sous Nicolas Sarkozy que le nombre des policiers a diminué de 13 000.
Est-ce qu'il y a une manière de droite ou de gauche de lutter contre la délinquance ?
Peut-être, mais en tout cas, on ne peut pas aborder le problème de la délinquance sous un angle idéologique. Il faut des policiers, il faut des policiers bien formés, il faut des policiers respectueux aussi de leur mission et de leurs principes. Et puis il faut agir sur des causes profondes aussi qui nourrissent l'insécurité sans excuser aucun des comportements individuels, criminels ou délictueux, bien sûr.
C'était l'ancien Premier ministre Lionel Jospin sur notre antenne à la mi-journée. À Birmingham, un suspect arrêté par la police britannique après l'attaque au couteau qui a fait un mort et 7 blessés dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'agit d'un homme de 27 ans. Ses motivations restent inconnues à ce stade de l'enquête.
Oui, rien pour l'instant, en tout cas, ne permet de retenir la thèse terroriste.
À l'étranger encore, ça y est, Isabelle, Alexei Navalny s'est réveillé.
Effectivement, l'opposant russe empoisonné n'est plus dans le coma. Il réagit quand on lui parle, indique l'hôpital de Berlin, dans lequel il a été transféré. Londres convoque l'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni. Les Européens appellent Londres à respecter ses engagements. Ils mettent en garde les Britanniques contre toute tentation de revenir sur les engagements pris lors du Brexit.
La crainte d'un no deal se renforce alors que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, menace de claquer la porte. On y reviendra à 19h avec l'œil de Didier François.
À Roland-Garros, l'organisation obligée de composer avec le Covid, la jauge sera ainsi réduite de 20 000 à 11 500 spectateurs par jour maximum. Et les joueurs seront tous logés dans deux hôtels, seulement deux hôtels choisis par l'organisation. Le tournoi sur terre battue démarre, on le rappelle, le 27 septembre. Le club de foot de Caen, qui évolue en Ligue 2, racheté par un fonds d'investissement américain Oaktree et par le producteur Pierre-Antoine Capton, club qui était en grande difficulté financière.
Ce rachat fait de Caen le 10e club de football français à passer sous capitaux étrangers.
Après le PSG, Lille, Monaco, Nice, Auxerre, Sochaux et le 4e sous la bannière étoilée avec Marseille, Bordeaux et Toulouse. Repos pour le peloton du Tour de France en ce début de semaine.
Oui, avec quand même une obligation et pas des moindres. Entre deux siestes et deux entraînements, se faire dépister, n'est-ce pas Axel May ?
Oui, une journée de repos bien particulière pour le peloton. Non seulement les coureurs ne sont pas censés voir leur famille pour éviter toute contamination extérieure, mais en plus, ils doivent faire des tests de détection du coronavirus comme au moment du grand départ à Nice. Alors, en comptant les coureurs et le personnel des équipes, quelques 650 tests ont été effectués entre hier et aujourd'hui. Et même si de nombreuses précautions ont été prises, il y a forcément un peu d'appréhension. Écoutez, Romain Bardet, actuellement 4e du classement général, il a répondu cet après-midi aux questions des journalistes tests par visioconférence, toujours dans ce souci d'éviter au maximum les contacts extérieurs.
On a potentiellement un coup près au-dessus de la tête, maintenant celui-ci est peu ou prou le même pour tous les acteurs du tour. On fait le maximum, mais on n'est pas à l'abri, donc voilà, on a appris qu'on aurait les résultats que demain. On prend notre mal en patience, on essaie de faire attention, mais c'est vrai qu'on n'espère pas avoir de mauvaises surprises au réveil demain.
Les résultats devraient être communiqués à la presse demain vers 9h, avant donc le départ de la 10e étape. Et rappelons la règle, 2 cas positifs dans une équipe, personnel et coureur compris, et toute l'équipe rentre chez elle.
Merci Axel, mec, qui nous fait vivre ce Tour de France tous les jours sur Europe 1.
Mais merci Isabelle, on vous retrouve pour le rappel des titres à 18h30 et puis pour le grand journal de l'info à 19h. La météo avec vous Anissa, vous nous avez rejoint. De la chaleur, du soleil, quelques nuages, mais c'est pas mal pour demain,
ouais,
ce qui s'annonce.
C'est ça. Et vous avez tous les ingrédients de la journée de demain, effectivement, Julien. Le soleil va dominer sur une grande partie du pays, avec un petit peu plus de nuages entre la Bretagne, la Normandie, le Nord, le bassin parisien et les Hauts-de-France. Ce sont des grisailles matinales qui vont se dissiper à la mi-journée. Au bord de la Méditerranée, du côté du Roussillon, là aussi, le ciel est un petit peu plus couvert, avec des averses qui se développent dans l'après-midi. Le Mistral et la Tramontane faiblissent demain. Les températures, elles sont stationnaires le matin avec 4 à 20 degrés. Donc c'est frais dans l'Allier, 4 pour Montluçon. C'est bien plus agréable à Nice avec 20 degrés. 14 pour Paris en début de journée. Puis dans l'après-midi, au sud de la Loire, les températures sont au-dessus des normales de saison avec 27 à Perpignan et Limoges, 28 à Lyon, 29 à Nice et Ajaccio, 29 également pour Toulouse et Bordeaux, 30 à Marseille, jusqu'à 31 degrés pour Avignon. Au nord de la Loire, allez, c'est un peu plus frais, mais ça
comme
reste
toujours,
quand même sympa.
Comme toujours.
Exactement. 25 pour Paris, 24 à Quimper, 23 à Lille et 22 à Dunkerque.
Et dites-moi que ça va durer jusqu'au week-end.
Ça va durer jusqu'au week-end.
Bravo, merci
vous me demandez,
Anissa.
Je vous le
merci
dis.
Anissa.
Europe 1, Julien Bucher.
Dans quelques secondes, notre hôpital, nos hôpitaux, peuvent-ils tenir? On en parle avec le professeur Perromore, auteur d'un livre choc qui alerte sur l'état de notre système. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec notre invité ce soir à 18h19 dans Europe Soir, c'est un éminent professeur, chef du service urologie de l'hôpital Cochin à Paris, qui sort un ouvrage choc sur la réalité du malaise à l'hôpital. Bonsoir professeur Michael Perromore.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans le studio d'Europe Soir. Alors votre livre s'intitule « Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit », c'est aux éditions Albin Michel. Est-ce que vous y décrivez, hein, on va en parler très longuement ce soir, est assez inquiétant pour l'avenir. Je voudrais d'abord avoir votre sentiment sur une question d'actualité. Comment jugez-vous la situation sanitaire? On assiste, c'est vrai, à une progression exponentielle du virus. Le seuil d'alerte est dépassé dans 19 départements. Le nombre d'hospitalisations progresse fortement. Beaucoup de médecins redoutent une nouvelle saturation des services de réanimation. Est-ce que c'est également votre crainte?
On voit à l'hôpital qu'en effet, les cas augmentent, les cas graves augmentent. Alors évidemment, les réanimations sont très loin d'être saturées puisque ça reprend progressivement, mais on craint en effet la fameuse deuxième vague.
Si on continue avec ce même rythme, disait ce matin le professeur Fontanet, on arrivera dans une situation absolument critique en décembre. C'est également ce que vous observez, vous, du haut de votre tour de contrôle à Cochin ?
Tout à fait. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais c'est vrai que ça augmente très vite et les nouveaux cas qui transitent par les urgences, effectivement, augmentent très vite.
Est-ce que vous diriez que les hôpitaux sont cette fois armés pour faire face à une seconde vague? Et là, ça rejoint ce que vous dites dans votre ouvrage. Olivier Véran promet par exemple que 4000 lits à la demande pourront être mobilisés en cas d'afflux dans tout le pays.
Il y a des choses qui sont mieux préparées, évidemment, à la fois sur le plan logistique et sur le plan matériel, puisqu'on aura cette fois-ci plus de masques, le cas échéant. Oui. Mais en revanche, sur le capacitaire, c'est-à-dire sur les lits de réanimation, le compte n'y sera pas, si jamais ça se produit.
Alors c'est dans ce contexte que vous publiez donc cet ouvrage, choc, je le disais, sur l'état des lieux de l'hôpital public. Vous décrivez des hôpitaux dignes du tiers-monde, c'est les mots que vous employez, état lamentable.
Oui.
C'est vraiment ça la réalité en 2020 de l'hôpital public?
Certains hôpitaux français sont effectivement dignes du tiers-monde, puisqu'on n'a pas investi depuis une ou deux ou trois décennies. C'est vrai que la santé... malheureusement, a stagné dans notre pays.
Mais quelle situation, par exemple? Quand vous dites digne du tiers-monde, ça n'est pas rien, les mots ont un sens.
Vous avez encore, par exemple, des chambres à 4 lits dans certains vieux services de chirurgie. C'est tout à fait inacceptable, ne serait-ce que pour des raisons de contagion infectieuse.
Oui, mais ça veut dire que le matériel est défaillant? Ça veut dire qu'on met en danger la sécurité sanitaire, la
bien
santé
sûr,
des patients?
Bien sûr. Pas partout, encore une fois, hein, mais il y a beaucoup d'hôpitaux français qui sont à la traîne, qui n'ont pas le matériel.
Combien,
qui n'ont pas
professeur
le... Oh, je ne peux pas vous dire, mais à mon avis, il y a un bon quart des hôpitaux français qui sont en retard. Je le pense, oui. Notamment en province, dans les petits hôpitaux qui n'ont pas pu être rénovés.
Alors, sur les réponses que vous apportez dans le livre, parce que c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de réponses aussi et de clés de compréhension. Vous militez notamment pour une revalorisation des salaires. 20%, dites-vous, mais en échange, il faut travailler plus. Alors, moi, j'ai un peu l'impression que les soignants, les infirmiers, les infirmières, les médecins travaillent déjà énormément. On parle de burn-out, on parle de d'heures supplémentaires qui n'en finissent plus.
Alors, il faut quand même rétablir un peu la vérité. Il y a des gens qui travaillent énormément à l'hôpital, en particulier les médecins et les cadres de direction. Oui. Pour ce qui est du personnel soignant, infirmières et aides-soignants, c'est vrai que ces gens-là travaillent dans des mauvaises conditions à cause des dysfonctionnements et des manques, ça c'est vrai. Mais il faut aussi reconnaître que leur temps de travail est assez confortable par rapport à d'autres pays. On se plaint,
donc
à juste titre.
Il faut qu'ils travaillent plus.
Oui, moi je le pense. Alors c'est vrai qu'on voit très souvent des personnels dans les émissions se plaindre d'avoir fait des heures supplémentaires, d'avoir été rappelé le week-end, etc. Ça existe, mais ça existe que pour une petite part des agents, d'une part, et d'autre part, quand ils sont amenés à faire ça temporairement, ils récupèrent ensuite.
Oui, mais donc, ça n'est pas du tout le sentiment qu'on a quand on interroge les personnels soignants. Vous avez vu, pendant la crise sanitaire, on a vu des gens en burn-out, des infirmières
bien
à bout,
qui
dormaient au milieu des brancards.
Bien sûr, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que 50% de l'hôpital était à l'arrêt et qu'il y avait des gens qui étaient payés à rien faire.
Donc ce que vous pointez aussi du doigt, ce sont les administratifs, les personnels dans les bureaux ?
Je pointe du doigt beaucoup de choses, beaucoup de dysfonctionnements et aussi une mentalité qui a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens comptent leurs horaires, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Et il y a une fonctionnarisation de l'ensemble du système qui plombe l'hôpital. Il n'y a pas que ça comme problème, il y en a beaucoup d'autres.
Vous dites qu'il y a une responsabilité claire de la bureaucratie dans les défaillances de la gestion de la crise et la gestion de l'hôpital.
Bien sûr, ça c'est le problème de la gouvernance. En fait, l'hôpital, avant, était à la main des médecins et des soignants et le patient était au cœur des préoccupations. Ce qui a beaucoup changé en 20 ans, c'est qu'on a mis en place une gouvernance assez rigide, assez administrative, qui a créé beaucoup d'inertie.
Mais ça va changer dans le bon sens, si j'en crois les annonces faites par le ministre Olivier Véran avec le Ségur de la Santé.
Les annonces sont faites, reste à savoir si les actes seront joints aux paroles.
Alors, vous dites aussi, professeur Michael Perromore, vous dites qu'il faut en finir avec la gratuité des soins.
Oui.
Sujet hautement inflammable, tabou.
Oui,
Page 169, l'idée, dites-vous, serait de mettre en place un panier de soins pris en charge à 100% pour les soins fondamentaux, c'est-à-dire les cancers, les urgences, les maladies chroniques notamment, et le reste, les petits bobos, pour faire simple, mais pas que, seraient payés par l'assuré ou les complémentaires.
Exactement, alors je ne veux pas passer pour un grand méchant antisocial, mais pour moi c'est une vérité. La sécurité sociale a été faite en 1945-46, à l'époque où les gens mouraient très tôt, après leur retraite. Et donc, les maladies, à l'époque, étaient fatales. Aujourd'hui, les gens passent autant de temps en retraite qu'en activité. Ils développent des maladies, plusieurs, qui ne sont plus létales, en fait, qui deviennent chroniques, et les traitements sont de plus en plus coûteux. Et donc, il faut voir cette réalité en face. Et tant qu'on voudra rembourser à tout prix toutes les bobos du quotidien, etc., la sécurité sociale sera dans le rouge, de mon point de vue, et on ne pourra plus investir à côté, dans les hôpitaux, dans les salaires des personnels.
Mais on pourrait vous répondre que ça va accentuer les inégalités de traitement entre les citoyens.
Je comprends
très bien.
Ceux
qui ont de l'argent et les moyens de se soigner, et puis les autres.
Les inégalités existent
déjà. Un peu comme le modèle anglo-saxon.
Les inégalités existent déjà. Vous avez des gens, par exemple, qui sont couverts par la CMU. Il y en a 5 millions environ qui ne payent strictement rien. Et vous avez tout un tas de gens qui travaillent avec des petits salaires qui, eux, ne sont pas pris en charge et qui ont un reste à charge. Les inégalités, quel que soit le système que vous mettez en place, vont exister.
Je voudrais terminer par une question et revenir sur le sujet d'actualité qui est la crise sanitaire. Est-ce que vous pensez qu'on a donné trop d'importance aux scientifiques dans la gestion de cette crise ? Je vous pose la question parce que page 218, vous dites « Nos dirigeants ont fini par s'effacer. Ils se préparaient à être responsables et pas coupables. »
Exactement. Il m'est apparu, c'est mon idée, qu'à un moment donné, les politiques qui n'étaient plus crédibles parce qu'ils avaient donné des informations très contradictoires se sont réfugiés derrière le fameux conseil scientifique. Trop de mon point de vue. Je pense en effet que les politiques ont à prendre l'avis des médecins dans pareille situation, mais là, ils l'ont trop fait, ils se sont presque effacés.
Merci Michael Perromort d'avoir été ce soir l'invité d'Europe Soir. Je rappelle Merci. Le titre de votre livre, Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit. C'est aux éditions Albin Michel et c'est dans évidemment toutes les bonnes librairies. Merci à vous.
Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
18h26, dans un instant, le rappel des titres de l'actu et le débat des grandes voix. Où est la droite républicaine en cette rentrée et qui surtout pour la représenter en 2022? On en parle.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le rappel des titres d'Isabelle Millet à 18h30.
Et un homme arrêté dans le Haut-Rhin est placé en garde à vue dans l'enquête sur des sévices infligés à un cheval et à deux poneys. Le ministre de l'Intérieur et celui de l'Agriculture sont justement ce soir dans l'Oise, chez une éleveuse dont un cheval a été tué en juillet. Dans un entretien à l'Obs, Jean-Luc Mélenchon évoque la fondation d'une nouvelle force politique pour mener avec ceux qui l'auront voulu son éventuelle campagne pour la présidentielle de 2022. Il doit annoncer le mois prochain s'il se représente. La fiancée de Jamal Khashoggi, ce journaliste assassiné en 2018, qualifie de farce le verdict final rendu aujourd'hui par la justice saoudienne. Alors qu'en première instance, 5 peines de mort avaient été prononcées, cette fois les accusés, écopent de peines allant de 7 à 20 ans de prison. Roland Garros, à l'heure du Covid, la fédération doit s'adapter. Pas plus de 11 500 spectateurs maximum par jour au lieu des 20 000 habituellement. Tous les joueurs seront logés dans deux hôtels choisis par l'organisation. L'Espagne, pays européen parmi les plus touchés par la pandémie, a dépassé aujourd'hui la barre des 500 000 cas diagnostiqués. De son côté, l'Inde dépasse le Brésil et devient le deuxième pays du monde après les États-Unis, avec le plus grand nombre de cas de Covid-19.
Merci Isabelle, l'info revient avec vous à 19h. La météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Et le retour de la chaleur et pour demain, vous nous dites Anissa ce soir. C'est
effectivement, une bonne nouvelle. Julien, nous allons une nouvelle fois demain passer la barre des 30 degrés dans le sud. 31 degrés à Nîmes, 30 à Marseille, 29 pour Bordeaux et Bastia, 28 degrés à Lyon, 25 à Paris, 23 à Lille, c'est un peu plus frais hein, au nord, 21 degrés pour Cherbourg. Nous sommes au-dessus des moyennes de saison demain sur la moitié sud du pays. Sur la moitié nord, le ciel est un petit peu plus couvert sur la Bretagne, la Normandie, le nord et le haut du bassin parisien. Et puis sur le golfe du Lion, nous aurons une petite instabilité qui s'installe avec, sur les Pyrénées-Orientales, un léger risque d'averse, très localisé. Mais dans l'ensemble, l'été joue les prolongations.
Bien.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, on est toujours ensemble en direct dans le studio d'Europe Soir. Et après l'info et la météo, place maintenant au débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir Julien.
La droite en ordre dispersé. On en parle avec vous ce soir puisque les Républicains ont clos leur université d'été ce week-end au Port Marly et sans surprise, non, et avec surprise plutôt, eh bien on n'en sait pas beaucoup plus pour la suite. D'un côté François Baroin qui maintient le suspense sur son choix pour la présidence.
Je ne vais pas vous répondre.
De l'autre, des ambitions qui s'affirment, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, Rachida Dati et Xavier Bertrand.
Moi, je ne veux pas d'une politique pour les premiers de cordée. Je veux d'une politique pour tous les Français. Et le rôle d'un président, c'est de réconcilier, c'est de réunir. Et pardonnez-moi, d'avoir ce cap-là en tête en permanence, pardon, d'avoir cette obsession-là.
Voilà, c'est un peu l'inventaire à la Prévert en ce moment, ce qui se passe à droite, Gérard Carrérou. Est-ce que la droite, justement, peut encore rebondir et avec qui?
Alors la droite peut encore rebondir, bien sûr, on est quand même si la campagne a commencé, parce qu'elle a commencé, mais on est à 20 mois, c'est-à-dire quoi, ça fait
un an et demi.
Ouais. Bon, c'est normal, une campagne présidentielle, ça dure toujours autour de un an et demi. Mais elle a commencé parce qu'il y a déjà deux candidats qui, eux, se sont installés dans le match, fortement.
Emmanuel Macron, Marine Le Pen.
Voilà, Emmanuel Macron, oui. Marine Le Pen. Et c'est leur intérêt politique, à l'un comme à l'une, comme à l'autre, de jouer ce match. C'est leur intérêt de se marquer et de jouer le match. Du coup, ceux qui ne sont pas encore partis, et vous citez les Républicains, mais on pourrait aussi citer la gauche, oui. La gauche socialiste et oui. écologiste, ceux qui ne sont pas partis...
Mais il y avait un espoir à droite, l'espoir d'un rebond porté par François Baroin, notamment.
L'espoir de Baroin, d'abord, il n'est pas mort, il a dit que ça sera à l'automne, on verra. Bon, la majorité des gens, d'ailleurs, il suffit de voir, même les lecteurs du Figaro, ils ont fait un petit référendum interne, là, comme ils font tous les jours, et il y a une énorme majorité qui pense que Baroin n'ira pas.
Oui.
Parmi les lecteurs du Figaro.
C'est un peu le syndrome Jacques Delors.
Donc, effectivement, il y a un doute, il y a un doute très important. Mais si vous voulez, le problème, au-delà de la personnalité de Baroin, qui serait un bon candidat, sans doute, mais le problème, c'est d'avoir un candidat qui arrive au deuxième tour. Or, pour arriver au deuxième tour, il faut avoir au moins 20%.
Oui.
Or, aucun de ceux qui sont lancés, on vient d'entendre là...
C'est ce que j'allais vous dire, extraits. Gérard Carrérou, les premiers sondages sur 2022, qui ne sont pas vraiment encourageants, que le candidat soit François Baroin, Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, aucun ne passe pour l'instant la barre des 15%, Charles Villeneuve.
C'est pas mal, 15%.
Y a-t-il péril en la demeure du côté des Républicains?
Non. Moi, je pense que les Républicains n'ont pas besoin de se presser, surtout pas
Ils ont Baroin. Encore le temps de rebondir.
Largement. Rappelez-vous que le président de la République actuelle, lui, est arrivé très tard dans la mêlée et qu'il était parti d'une base de 12%.
Oui.
Bon. Alors, Baroin, moi, j'ai pas mal discuté avec lui, pas ce matin, évidemment, mais déjà.
Si vous avez un scoop, n'hésitez pas, Charles. Hein.
Non, je pense qu'il a raison de penser que la préoccupation française n'est pas la présidentielle actuellement. Mais la crise sanitaire, la crise de l'emploi et la crise de leur pouvoir d'achat. En tout cas, eux considèrent, et c'est son analyse, qu'un homme politique ne doit pas chercher, si vous voulez, son point d'équilibre par rapport aux désirs, aux impatiences des journalistes, du parti, des chroniqueurs
oui.
ou des lecteurs du Figaro, mais par rapport à la société française.
Mais quand on hésite en politique, ce n'est pas bon signe, Charles. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment l'envie. Non,
ce n'est pas ce que je vous dis. Et ce n'est pas ce que m'a dit François Baroin. François Baroin pense que le problème des Républicains n'est pas celui de l'incarnation à l'heure actuelle, mais comment se différencier d'Emmanuel Macron pour être crédible, sans pour autant lancer le bouchon trop loin pour éviter d'être caricatural. Si vous voulez, leur problème, c'est plus la définition de l'espace politique que la question de l'incarnation par une personne.
Oui. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus.
Et oui, alors juste, je voudrais finir rapport à, et d'autant plus, que deux des candidats, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, leur problème à eux,
président de région,
les régionales en mars 2021, et se servir, s'ils sont, d'ailleurs le sondage qui a été fait pour l'Île-de-France, mais Valérie Pécresse en tête, se servir, si elle réussit, si tous les deux réussissent, se servir de tremplin pour, justement, leur candidature à la présidentielle.
Alors,
j'ajoute, il y a quand même une petite inquiétude, c'est Gérard Larcher. Gérard Larcher, mesuré président du Sénat, qui est un peu sorti de ses gonds ce week-end. Il a dit « Je ne laisserai pas faire n'importe quoi où ce sera sans moi ».
Non mais c'est bien, c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que moi je ne crois pas à tous les arguments que Charles vient de... et qui viennent droit de la bouche du cheval, c'est-à-dire de Baroin.
Non,
et
pas seulement de Baroin.
Ou de son entourage, peu importe. Ça donne l'impression... Le ressenti, puisqu'on parle beaucoup actuellement de l'insécurité, est-ce que c'est un ressenti?
Bon, moi je fais
le
ressenti.
C'est ce que tu ressens. C'est pas mon sentiment, je viens de vous citer.
J'ai un analyse.
Le ressenti.
Non, mais je plaisante. D'une grande sentiment, je pense. Non, mais je pense à Éric Dupond-Moretti.
Oui, c'est exprès, j'ai joué là-dessus. Oui. Le ressenti de beaucoup d'électeurs de droite et de gens qui sont impatients d'avoir un candidat, c'est que Baroin cherche des prétextes pour se défiler.
Oui.
Et qu'il repousse. Ce qu'il dit, c'est vrai, il faudra un candidat, il faudra un agenda politique, un programme et tout. Mais en attendant, il faut aussi une incarnation.
On dit même qu'il aurait été sollicité pour prendre la tête de JP Morgan à Paris ou de Morgan Stanley. Je ne sais plus laquelle des deux banques d'affaires.
Je ne sais pas si c'est vrai.
Morgan Stanley.
Mais en tout cas, il y a un...
Comme ce sont des journalistes qui recoupent leurs informations, ça ne doit pas être faux.
Il y a une autre chose qui n'a pas été dite encore dans notre petit débat. C'est qu'il y a un candidat fantôme ou un candidat caché, comme on disait, le candidat caché pour les Républicains, c'est peut-être celui qui un jour sortira...
Vous allez me dire
sortira,
Édouard Philippe ?
Bien sûr.
Édouard Philippe, l'homme de recours.
Parce que Édouard Philippe, contrairement à tous ceux dont j'ai dit, leur problème, c'est qu'ils ne peuvent pas être au deuxième tour, parce qu'ils ne font pas les 20 points ou 22 points qu'il faut pour être au deuxième tour.
Alors, enfin, on va continuer d'en parler, Charles Villeneuve.
Mon sentiment, c'est que le candidat caché ne sera
j'ai
plus
quand
caché.
Même, moi, l'impression, Charles Villeneuve, vous me répondrez après la pause, que à droite, c'est quand même la rencontre d'un homme avec les Français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Édouard Balladur. N'en dites pas plus, on en parle juste après la pause. A tout de suite avec les grandes voix.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, on est toujours en direct avec le débat des grandes voix, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou avec moi en studio ce soir dans Europe Soir. Et on parle de la droite. Quelle droite pour 2022 Charles Villeneuve, je vous posais la question juste avant la pause. Je disais, à droite, généralement, c'est plutôt la rencontre d'un homme avec les Français, avec un électorat, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Édouard Balladur. On ne va pas remonter jusqu'à Pompidou et Charles de Gaulle, mais voilà, il y a quand même l'idée d'une rencontre.
Emmanuel Macron.
Est-ce que c'est un homme de droite? C'est à vous de le,
Je ne sais pas, mais enfin, il a quand même un versant de droite tout en ayant un versant de gauche. C'est le principe du en même temps. Maintenant, reste à savoir s'il va conserver ce temps même temps. Mais moi, je trouve qu'avec la déclaration ce matin de Gérald Darmanin, le président de la République est en train de changer de logique.
D'ailleurs, à droite, des voix commencent à se faire entendre pour que le président signe un accord avec LR, ou plutôt l'inverse, pour que Christian Estrosi, passons un accord, a-t-il dit il y a quelques jours avec Emmanuel Macron. Et hier, c'est Roselyne Bachelot qui lui a emboîté le pas. Écoutez.
Je pense qu'il ne sera pas le candidat de la droite. Il sera un candidat avec un spectre politique beaucoup plus large. Est-ce que les Républicains se reconnaîtront dans Emmanuel Macron? Je pense qu'ils ont toutes les raisons de s'y reconnaître.
Est-ce qu'elle a raison, Roselyne Bachelot, Gérard Carrérou? C'est vrai qu'on ne va pas se mentir, il y a des convergences entre la majorité présidentielle et LR, sur l'économie notamment.
Il y a des convergences, il y a aussi beaucoup de divergences, notamment sur la sécurité, par exemple. L'angle mort du macronisme, tout le monde sait que c'est la sécurité. Et là, actuellement, c'est là-dessus que ça se joue. Mais il est normal que Roselyne Bachelot, qui a été parmi les trois ministres qui ont été promus à des ministères importants, dise qu'elle votera pour Macron.
Christian Estrosi, c'est plus surprenant.
Christian Estrosi, c'était prévu déjà plus ou moins. Oui, mais... Christian Estrosi n'a jamais... Le maire de Nice, qui est très bon maire de Nice, n'a jamais été un foudre de l'anti-macronisme. Oui. Donc c'est pas tellement anormal. Et Macron, c'est normal qu'il essaye de rassembler autour de son
camp. À le faire. Mais moi, je trouve que sortie de Christian Estrosi, pas celle de Bachelot. Bachelot, elle est dans l'ordre des choses. Elle a reçu le ministère de la Culture. Elle s'y trouve parfaitement bien. Elle semble d'ailleurs pas mal se débrouiller, il faut le dire. Mais la sortie d'Estrosi, elle a deux défauts. Elle gêne Emmanuel Macron, je trouve, parce que ça le fait apparaître comme le candidat de la droite, première chose. Et il a intérêt à être un attrape-tout. Elle gêne aussi les Républicains parce qu'il lui faut se compter pour négocier. Ensuite, c'est pourquoi il leur faut un candidat. Sinon, les Républicains disparaîtront s'ils ne se comptent pas au premier tour. Et puis, je trouve, moi, plus important, beaucoup plus important, la déclaration de Gérald Darmanin ce matin sur la proportionnelle. Oui. Le président m'a demandé de travailler sur la proportionnelle et j'y suis favorable. Ça veut dire que moi, je trouve qu'il rentre dans une logique qui n'est plus celle de la Ve République, mais à l'allemande.
Justement, à l'allemande, pour sortir de la politique politicienne l'espace de quelques instants, est-ce que ça n'aurait pas, permettez-moi l'expression, de la gueule un gouvernement d'union nationale en France?
Oui, non, mais on en parle depuis, écoutez, ça fait 50 ans que je suis la politique française et j'entends ça périodiquement.
Et pourquoi pas?
Et ça ne se fait jamais, ça ne
et
se fera
pourquoi pas cette
écoutez,
fois-ci.
Écoutez, qu'on le veuille ou non, comme en Angleterre, comme en Amérique, la France, il y a deux grandes familles qui s'appellent la gauche et qui s'appelle la droite. Et quand on nous dit... Alors, il y a des moments historiques comme le macronisme où on se dit « Oh, ça y est, ça a explosé, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. » Ce n'est pas vrai. Il y a profondément ancré dans les têtes et dans l'histoire des Français, il y a la gauche et il y a la droite. Donc, le gouvernement d'Union nationale, sauf s'il y avait une guerre, mais alors, pas une guerre sanitaire, une vraie guerre, si j'ose dire, malheureusement, s'il y avait une vraie guerre, peut-être qu'on verrait un embryon d'Union nationale. Mais à faute de ça... Je ne crois pas une seconde à l'Union nationale.
Alors, les Français vous rejoignent visiblement, parce que le sondage IFOP du JDD paru hier dit 65% des Français ne veulent pas d'un soutien de la droite à Macron en 2022. Charles Villeneuve.
Oui, non mais, et c'est pour ça, et c'est la raison pour laquelle je pense que le problème de l'incarnation des Républicains est très important. D'abord, il y a évidemment la droite, l'ultra-droite.
Oui.
Puisque Marine Le Pen, évidemment, qui, elle, c'est un autre problème, et ses difficultés sont tout à fait différentes, je pense qu'on en parlera aussi. Mais pour les Républicains, c'est essentiel d'être présent au premier tour avec un très bon candidat, parce que s'ils ne se comptent pas, ou s'ils veulent, ou si une aile, ou un certain nombre de personnalités, d'entre eux veulent négocier avec Macron pour le deuxième tour, mais il faut qu'ils aient des biscuits, comme on dit. Mmh. Et des biscuits, c'est quoi? C'est le nombre d'électeurs français.
Mais ça veut dire que vous acceptez leur défaite en disant ça, parce que ça veut dire qu'ils seraient tout simplement le meilleur qu'ils pourraient espérer, c'est d'être en train de négocier pour le deuxième tour derrière Macron.
Non. Poste par poste
et individuellement. Édouard Philippe, c'est une hypothèse.
C'est une hypothèse que si le président de la République, qu'on ne peut pas exclure, et soit empêché de se représenter.
Comme François Hollande. Vous pensez que c'est possible, ça ?
Oui, parce que la crise sociale, économique peut être considérable et à ce moment-là gêner plus qu'aux entournures, le président Emmanuel Macron.
Oui, moi je ne crois pas. Vous y croyez-vous ?
Je crois tout à fait à la possibilité d'un contrairement à ce qu'aujourd'hui la plupart des Français pensent, parce qu'ils voient pas, ils pensent Philippe, c'était l'ancien Premier ministre. Mais je pense qu'il peut surgir. Et la faiblesse extrême de Macron, si elle devait se mesurer lors des sondages dans 6 mois, dans 8 mois, s'il y avait une extrême faiblesse de Macron qui montrait qu'il n'était pas en situation, à ce moment-là, Édouard Philippe se représentera. Et je pense que beaucoup de gens autour de lui...
Il faudrait qu'il trouve l'angle d'attaque tout de même, puisqu'il l'a soutenu et il a été son Premier ministre pendant 3 ans.
Oui, mais il avait son angle d'attaque, ça sera de dire, moi j'ai eu, au pire, quand je suis sorti du gouvernement, j'avais encore 57% d'adhésion des Français à ma politique.
Il faudra qu'il arrive, je veux dire, à se démarquer de la ligne politique qu'il a accompagnée avec Emmanuel Macron.
C'est une bonne question, mais je pense que les Français ont fait la différence entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Et les sondages le montrent.
Bien, alors dans quelques secondes, j'ai besoin de votre expertise ce soir, messieurs, sur ce qui se passe au Mali, l'opération Barkhane. Il y a eu 2 soldats français morts en opération samedi. On en parle après la pause. La France doit-elle rester au Mali ?
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on poursuit le débat des grandes voix avec toujours Charles Villeneuve et Gérard Carrérou à mes côtés dans le studio d'Europe Soir. On s'intéresse maintenant dans le débat à l'engagement français au Mali. On l'a appris samedi, 2 soldats français ont été tués en opération par une bombe artisanale. Un 3e a été blessé. Ces 2 soldats étaient hussards parachutistes qui, une fois encore, évidemment, relancent le débat sur l'engagement français au Sahel. Alors, Charles Villeneuve, je vous pose la question. 45 soldats morts depuis le début de l'engagement dans le pays en 2013. Est-ce que la France a vocation à rester de manière permanente au Mali ?
Vous savez, une guerre est juste quand elle est nécessaire. Et cette guerre a été nécessaire au début. Et ce qui a été fait au début, sous François Hollande, a été très bien fait. Il fallait donner un coup d'arrêt aux colonnes motorisés djihadistes qui voulaient occuper Bamako.
C'est l'opération Serval,
voilà,
qui s'est transformée en opération Barkhane.
Aujourd'hui, on ne voit plus très clairement l'efficacité de l'intervention. On n'ose pas donner des bilans. Or, quand on discute avec les militaires, les bilans sont, paraît-il, considérables. Or, on ne donne pas des bilans. On ne donne pas le nombre de morts.
On parle des morts français, mais on ne parle pas des blessés français considérables. Oui, absolument.
Des bilans, et des bilans surtout de ce qui est, si vous voulez, neutralisé, c'est le mot maintenant, c'est-à-dire tué par les soldats français au niveau des djihadistes. Bon, et dernièrement, je sais que le bilan, notamment cet été, a été considérable. Mais, si vous voulez, ce qui n'est pas clair, c'est les objectifs maintenant et dans leur stratégie. Et je trouve que, d'ailleurs, nous n'avons quasiment pas l'appui d'une grande partie des pays européens qui considèrent que nous sommes dans une sorte de néocolonialisme. Et c'est assez embêtant. La charge financière est très importante. Il y a 5100 hommes, c'est beaucoup, avec un matériel aéroporté plus héliporté, évidemment aérien, et les drones avec l'appui des drones américains qui nous aident beaucoup aussi, c'est important de le dire. Et si vous voulez, c'est une guerre sans fin. Alors, donc je pense que le problème du rapatriement du contingent français commence à se poser, au niveau des chefs militaires.
Oui, moi j'ai trouvé quelques chiffres, Charles Villeneuve. Sur le bilan, on parle d'environ 600 individus depuis le début de l'année qui ont été neutralisés par l'opération Barkhane et leurs alliés, avec également un succès opérationnel fort. Ça a été la neutralisation du leader d'ACMI, Abdelmalek Droukdal. Et puis rappelons que ces 5100 militaires français, ils sont déployés sur l'ensemble du Sahel, même si le contingent le plus important est basé au Mali, c'est-à-dire le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et donc le Mali. Votre point de vue, Gérard Carrérou, la France insoumise, par exemple, réclamait ce week-end un débat à l'Assemblée nationale sur les conditions d'un départ. Est-ce que vous comprenez cet appel ?
Non, je ne comprends pas. De toute façon, je ne comprends jamais ce que dit la France insoumise la plupart du temps. Non, je ne comprends pas ou je ne veux pas comprendre. En tout cas, je suis en désaccord.
Le fait d'en débattre.
Mais simplement, oui, non, on peut toujours débattre. Je pense qu'il faut rester. Je pense que la mission, c'était d'empêcher, et c'est toujours la mission fondamentale, c'est d'empêcher que l'Afrique du Sahel, les États qui sont... Parce qu'il n'y a pas que le Mali, le Niger, et tout. Il suffit de regarder une carte. Que tous ces États ne deviennent peu à peu des États islamistes. Et si, vous vous souvenez de ce qu'on appelait la théorie des dominos pour le Vietnam, si un des dominos tombe, en l'occurrence le Mali, s'il n'y a plus l'armée française dans les 6 mois qui suivent, les djihadistes sont effectivement au pouvoir là-bas.
Mais donc et on dans a vocation à rester à vitam aeternam.
Alors effectivement, si on a une vision de l'histoire longue, moi-même je me pose la question, je me dis on est là depuis 7 ans, on peut peut-être encore tenir encore 2 ou 3 ans, mais dans la perspective longue, c'est comme quand on voulait empêcher le communisme et les communistes de prendre tous les pays de l'Asie, et ils sont tombés les uns après les autres, après la Chine, le Vietnam, le Cambodge, le Laos. Et tous ces pays sont devenus peu à peu, après une guerre française et une guerre américaine.
Alors,
et je finis là-dessus, moi, seul, on ne peut pas tenir plus encore de 2-3 ans.
Alors il y a la coalition internationale, mais c'est vrai que la France est seule dans l'opérationnel des missions.
Non,
on a un appui opérationnel avec les Américains notamment.
C'est ce qu'on appelle les nations citées, les pays cités par Gérard, sont regroupés dans une sorte d'organisation qui s'appelle le G5.
Mais le G5, ça, oui.
Disons les choses comme elles sont. Ça ne vaut pas grand-chose, sauf les militaires tchadiens, qui ont l'habitude du désert, sont d'excellents soldats, rappelons-nous, si vous voulez, la manière dont ces soldats ont décimé les forces libyennes dans la bande d'Aouzou, il y a maintenant pas mal de temps.
Mais des succès de la part des Français, mais aussi des pertes et des victimes, et qui sont d'autant plus ces Français.
Proportionnellement, 45, c'est beaucoup, et en même temps, assez peu.
Et en même temps, assez peu. Mais les Français doivent maintenant composer avec le putsch des militaires, qui ont sorti du pouvoir le président Ibeka, et la défiance qui commence à monter aussi du peuple malien.
Oui.
Sans la séduction des cœurs, on ne peut pas gagner les combats.
Tout ça est vrai.
C'est comme ça qu'on a perdu en Asie, effectivement.
Tout ça est vrai, en Asie, en Indochine, partout. En Algérie, etc., etc. Le peuple, de toute façon, lui, voit, si vous voulez, ces islamistes proliférer, ce que rappelait Gérard. Il ne faut pas oublier que c'est le premier objectif et qu'il y a un investissement, notamment turc aussi, il ne faut pas l'oublier, islamique aussi, puisque l'AKP, le principal parti turc, est un parti des frères musulmans. Et donc, tout ça fait des progrès, c'est vrai, un peu partout.
Bien.
Et donc, la question, si vous voulez, justement, tactique et stratégique, se pose. Les objectifs se posent.
Et on continuera d'en parler dans Europe Soir. Merci messieurs.
Europe 1, Julien Bugier.
On se retrouve dans quelques secondes avec le journal de 19h et juste après on ouvre le club des idées. Et si nous passions à la semaine de 4 jours ? Si, on vous dit tout à 19h, à tout de suite.